Vous écoutez, on lit pour vous.
Le pire est à venir. Préviennent des cégeps dans le rouge. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir. Il n'y a pas que les écoles qui crient famine. Plusieurs cégeps au Québec voient leur budget être limité au point où, malgré des suppressions de postes et des réductions dans certains services, ils anticipent un déficit se comptant en millions de dollars cette année. Et le pire est à venir, préviennent-ils. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a dû défendre la décision de son ministère de limiter à 2,2% la hausse des sommes allouées aux écoles de la province en 2025, ce qui amène celles-ci à devoir retrancher plus d'un demi-milliard dans leurs dépenses en prévision de la prochaine rentrée scolaire. On ralentit le rythme de croissance et oui, il y a un ajustement à faire, a déclaré le ministre à l'entrée du Conseil des ministres en réaction aux nombreuses critiques que cette décision a soulevées dans le réseau de l'éducation ces derniers jours. Il faudra être plus efficace avec l'argent qu'on investit, a-t-il ajouté. Plusieurs cégeps ont pour leur part adopté dans les derniers jours, en conseil d'administration, leur budget pour l'année 2025-2026. C'est ainsi qu'à eux seuls, 6 établissements de différentes régions du Québec anticipent un déficit annuel totalisant près de 13 millions de dollars, a appris Le Devoir après avoir contacté une douzaine de cégeps. D'autres anticipent un déficit, mais ne l'ont pas encore chiffré. Ça augure mal, laisse tomber en entrevue la directrice générale du Collège Dawson, Diane Gauvin. L'établissement avait évalué à 5 millions de dollars son manque à gagner en 2025. Afin de réduire ce montant, il a procédé à l'abolition de 23,5 postes en équivalent à temps complet, dont 12,5 étaient vacants, qui ne seront donc pas pourvus. Il a aussi tiré un trait sur divers projets spécifiques, en plus de fermer sa clinique de physiothérapie et le bureau de l'Ombudsman, énumère Mme Gauvin. C'est ainsi que l'établissement entend limiter son déficit à 2,5 millions en 2025-2026, une somme qu'il puisera dans ses soldes cumulés afin de maintenir ses activités à flot. Ces soldes cumulés, qui servent normalement à financer de coûteux imprévus ou des projets majeurs, ont d'ailleurs diminué de façon notable dans plusieurs cégeps depuis 2023-2024, a constaté Le Devoir. Une situation qui soulève de l'inquiétude dans le réseau. Ça nous prend de l'argent pour être capable de louer des locaux ou d'investir dans les aménagements nécessaires pour accueillir plus d'étudiants ou d'étudiantes, illustre Geneviève Perrault, la directrice générale du Cégep de la Naudière, en référence au rôle que jouent ces soldes cumulés. Or, le Cégep de la Naudière devra lui aussi piger dans ses soldes cumulés pour compenser un déficit anticipé de 944 000 $ en raison des coupures budgétaires imposées par Québec, note Mme Perrault. Et malgré ces abolitions de postes-là, on a encore un déficit, soupire la directrice générale. Les enseignants, pour leur part, sont épargnés par ces restrictions budgétaires qui ne peuvent toucher les services directs aux étudiants. Coupés dans le personnel de soutien, mais aussi administratif, risquent cependant de complexifier l'accès à différentes ressources de soutien par des étudiants, prévient le vice-président au niveau collégial de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, FNEEQ-CSN, Yves de Repentigny. C'est clair que ça a un effet sur la persévérance scolaire, estime-t-il. Un orage à l'horizon. La situation financière des cégeps ne semble d'ailleurs pas en voie de s'éclaircir. Au contraire, après avoir augmenté de 2,1% cette année, le budget consacré à l'enseignement supérieur, Québec prévoit réduire de 0,3% en 2026 l'enveloppe globale attribuée aux cégeps et aux universités. Le pire est à venir pour les cégeps, prévient Diane Gauvin. Le Collège Dawson prévoit d'ailleurs qu'à moins de continuer à couper de façon importante dans ses dépenses, il aura épuisé son solde cumulé en 2028. Ça va aller mal. Si les cégeps commencent à couper dans tout ce qui est recherche et innovation pour des raisons financières, ça risque d'être pas mal triste dans les prochaines années, appréhende pour sa part la directrice générale du cégep de Saint-Félicien, Sylvie Prescott. Le recul va être si majeur que ça va être difficile pour une province comme la nôtre de suivre. Si on veut, l'évolution, tant au niveau de l'intelligence artificielle ou de tout autre développement qui va se faire dans le futur. Joint par le devoir, le ministère de l'Enseignement supérieur confirme qu'il est vrai que plusieurs établissements expriment des préoccupations quant à leur situation financière pour la prochaine année scolaire. Il rappelle cependant que le Québec est confronté à des choix budgétaires et que tout le monde doit faire sa part. C'était « Le pire est à venir, préviennent des cégeps dans le rouge ». Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir.
Début de la saison des ouragans, voici ce que vous devez savoir. Un texte d'Erin McCann du New York Times, paru le 2 juin 2025 dans Le Devoir. Le 1er juin marque le premier jour de la saison des ouragans dans l'océan Atlantique, le début officiel d'une période de 6 mois qui peut entraîner certaines des catastrophes naturelles les plus destructrices et les plus coûteuses sur les côtes américaines. Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer. Les prévisionnistes pensent que cette saison sera supérieure à la moyenne. Au cours d'une saison moyenne, on compte 14 tempêtes nommées, dont 7 ouragans et 3 ouragans majeurs. Une tempête reçoit un nom lorsque ses vents atteignent 63 km/h. Elle devient un ouragan lorsqu'elle atteint 119 km/h et un ouragan majeur catégorie 3 ou plus à 179 km/h. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, l'agence mère du service météorologique américain, a déclaré qu'elle prévoyait de 13 à 19 tempêtes nommées en 2025. 6 à 10 d'entre elles pourraient se transformer en ouragans et 3 à 5 pourraient devenir des ouragans majeurs. Les prévisions de la NOAA sont conformes à d'autres prévisions, telles que celles de l'Université d'État du Colorado en avril 2025. La NOAA publiera des prévisions actualisées en août 2025, juste avant le pic d'activité habituel de la saison. De nombreux facteurs entrent en jeu dans l'élaboration d'une prévision saisonnière qui peut donc être erronée, mais les prévisions sont généralement devenues plus précises au cours des 20 dernières années. Est-ce mieux ou pire qu'en 2024? Cela dépendra du nombre d'ouragans, du nombre de ceux qui toucheront terre et de ce qui se passera lorsqu'ils le feront. Les scientifiques s'accordent à dire que les ouragans gagnent en puissance en raison des changements climatiques. En 2024, 18 tempêtes ont été nommées dans le bassin Atlantique, conformément aux prévisions de la NOAA, qui tablait sur 17 à 25 tempêtes, un chiffre également supérieur à la moyenne, et 5 d'entre elles ont touché les côtes des États-Unis sous forme d'ouragans: Beryl, Debbie, Francine, Hélène et Milton. Hélène, de catégorie 4 à son arrivée sur les côtes, et Milton, de catégorie 3, ont causé ensemble des dégâts estimés à 100 milliards de dollars. Quels sont les noms des ouragans de cette année? L'Organisation météorologique mondiale est chargée de nommer les ouragans. Elle utilise une liste qui tourne tous les 6 ans et retire un nom lorsqu'une tempête cause des dégâts importants. Les noms de cette année sont Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabriel, Umberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebecca, Sébastien, Tania, Van et Wendy. Dexter est nouveau. Il remplace Dorian, qui a frappé les Bahamas la dernière fois que ces noms ont été utilisés, en 2019. 3 des noms de l'année dernière, Beryl, Hélène et Milton, ont été retirés. Que signifient les réductions d'effectifs fédéraux américains pour les prévisions météorologiques et les efforts de reconstruction? Il est difficile de le savoir à ce stade. Les experts et les anciens météorologues du service météorologique américain ont exprimé leur inquiétude quant au fait que ces réductions pourraient affecter la manière dont les États-Unis gèrent une tempête majeure. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement de Donald Trump a commencé à démanteler une grande partie de l'appareil fédéral chargé de prévoir les conditions météorologiques extrêmes et d'y répondre. Les recherches à long terme sur les données climatiques sont menacées et la NOAA a perdu un nombre important de collaborateurs. Le service météorologique a perdu près de 600 personnes à la suite de licenciements ou de départs à la retraite. Certains bureaux ne disposent plus d'effectifs suffisants pour surveiller les prévisions pendant la nuit et le service météorologique a déclaré qu'il se préparait à une dégradation de ses opérations. Le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, l'initiative de réduction des coûts dirigée par Elon Musk, a ordonné des réductions d'effectifs dans de nombreuses agences qui sont généralement chargées d'apporter une aide en cas de catastrophe naturelle. Le New York Times a rapporté en mai 2025 que l'Agence fédérale de gestion des urgences avait perdu environ un quart de son personnel à temps plein, dont 1/5 des agents de coordination chargés de gérer les interventions en cas de catastrophe à grande échelle. Malgré ces coupes, Kristi Noem, secrétaire au département de la sécurité intérieure, a déclaré que l'agence était prête à faire face à la saison. Qu'en est-il des tempêtes dans le Pacifique? 2 saisons des ouragans touchent l'Amérique du Nord, celle de l'Atlantique et celle du Pacifique. Les tempêtes de l'Atlantique représentent généralement une plus grande menace pour les terres, c'est pourquoi vous en entendez plus souvent parler. La saison des cyclones du Pacifique a débuté le 15 mai 2025 et sa première tempête, Alvin, s'est déjà formée fin mai. Les 2 saisons se terminent le 30 novembre. Comment se préparer à la saison des ouragans? Il est beaucoup plus facile de planifier ce que vous ferez bien avant l'arrivée d'une tempête. Rassemblez les provisions dont vous aurez besoin et préparez un sac d'urgence. Si vous avez des animaux domestiques, il est également judicieux de réfléchir à la manière dont vous vous en occuperez en cas d'urgence. C'était Début de la saison des ouragans, voici ce que vous devez savoir, un texte d'Erin McCann du New York Times, paru le 2 juin 2025 dans Le Devoir.
Le minimalisme, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir. Du milieu du pont Jacques-Cartier, qui brille dans le noir au loin là-bas, comme le chantait Beaudommage, on voit se succéder, à tout moment de l'année, les promesses dorées offertes par des panneaux réclames éclairés. L'un d'entre eux, ces jours derniers, annonce pour l'an prochain, en version symphonique s'il vous plaît, la musique des Filles de Caleb. À partir de compositions de Blair Thompson, le producteur Nicolas Lemieux a investi l'univers du roman d'Arlette Cousture, qui avait donné lieu à une série à succès pour la télé en 1990-1991. Une œuvre orchestrale à partir des Filles de Caleb? Pourquoi pas? Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'un livre inspire de la musique symphonique. Don Quichotte a guidé Richard Strauss, Shakespeare a animé le génie de Tchaïkovski comme de Verdi, Goethe a nourri Berlioz. Les exemples sont nombreux. Pourquoi pas Arlette Cousture, même si elle n'est pas de la même pointure. Au printemps 2025, au bout du même pont, on annonçait de la même façon Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, une œuvre aussi désormais déclinée en version symphonique. Une adaptation, dans ce cas, du très beau et remarquable film musical signé l'an passé par René Richard Cyr sur la musique de Daniel Bélanger. La transposition symphonique d'œuvres populaires apparaît de plus en plus courante. Ces dernières années, au Québec du moins, les artistes marchent à la baguette des chefs d'orchestre. Il y a eu dans cette veine symphonique deux mémoires, Robert Charlebois, aussi bien qu'Éric Lapointe, en passant par Harmonium, Beaudommage, Jean-Pierre Ferland, Linda Lemay, Bruno Pelletier, sans oublier Voivode, Radio Radio et Half Moon Run. En février 2026, l'humoriste François Pyrrhus se retrouvera lui aussi porté par l'Orchestre symphonique de Montréal. Ailleurs, c'est pareil. En version symphonique, Kiss et Deep Purple nous ont été présentés, tout comme Sting, George Michael ou Billy Joel, pour ne nommer que ceux-là. Même Metallica, imaginez, a eu droit à sa version symphonique. Il fallait y penser. Qu'est-ce que cela veut dire à l'heure où la musique classique elle-même n'a cessé de reculer au point d'être à peu près réduite au silence par les diffuseurs publics comme privés? C'est comme si l'originalité d'œuvres sans prétention devait désormais trouver absolument sa caution, ses lettres de noblesse, en fusionnant avec la grande musique, quitte à mettre en péril leur frugalité et leur fragilité intrinsèque. Pourtant, tout le fla-fla orchestral ne fait souvent que diluer l'intensité émotionnelle en la noyant dans un épais sirop indigeste. L'originalité et la puissance d'œuvres simples et minimalistes ne peuvent-elles être démontrées à la face du monde qu'une fois transfigurées par le poids d'orchestrations compliquées, voire pompeuses, souvent peu originales, au nom du grandiose? J'ai souvenir, il y a quelques années, d'être allé entendre, dans une de ces formules musicales à grand déploiement, le monument vivant qu'est Richard Desjardins. C'était triste, malgré toute la bonne volonté de ce géant que j'admire tant. Desjardins était soudain ramené à ses petits souliers, forcé de courir vers l'illusion de sa mise en majesté. Son univers d'ordinaire si riche dans son dépouillement se retrouvait soudain embourbé, plombé, aplati à force de s'accrocher aux fausses ailes du grandiose. Son génie se trouvait étouffé entre les cordes et les cuivres qui l'étranglaient et l'assommaient. Le journaliste Sylvain Cormier, dans sa critique du spectacle, avait titré sans faire de quartier « L'erreur orchestrale ». Il avait raison, hélas. Notre époque craint-elle le minimalisme? Tout a-t-il besoin d'être sans cesse gonflé pour être glorifié? Il semble qu'il nous en faut toujours plus, comme si chacun craignait de se retrouver tout nu, laissé face à lui-même et à sa vérité. Apparemment, une portion substantielle de nos sociétés ne souffre pas le minimalisme. Tout n'est pas de plus en plus gros pour rien. Les autos, les bateaux, les paquebots, tout va crescendo dans une sorte de déconnexion émotionnelle généralisée. Quoi qu'on en pense, le triomphe du trumpisme et de ses boursouflures illustre bien ce trait de notre époque. Remarquez comment ce président désopilant, ces dernières semaines, tient par exemple à informer ses visiteurs de marque des modifications qu'il a cru bon d'apporter à la décoration de la Maison-Blanche. Il a tout rehaussé, explique-t-il, grâce au doré. L'or, voyez-vous, c'est cher, c'est voyant, c'est clinquant, donc ce doit être beau. Comme un gâteau, comme un château, comme Mar-a-Lago. Sans que ne soit ajoutée aucune réelle valeur artistique durable, on mime volontiers partout des formes datées. L'originalité s'en trouve dévaluée. Dans une entrevue, Georges Brassens affirmait que lorsque tu chantes une chanson à un ami, il est rare que 40 violons soient cachés sous la table. Malgré cet avertissement conséquent, l'orchestre symphonique s'est trouvé de plus en plus instrumentalisé pour légitimer des genres qui ne lui doivent pourtant pas grand-chose. Comme si tout devait être moulu, tondu, fondu désormais de la même façon, sans raison, sinon commerciale. C'était le minimalisme. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir.
Puello d'Air, témoin et acteur des manifestations entourant la descente au Sex Garage. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue. Beaucoup connaissent Puello d'Air, même s'il ne fait plus partie du paysage communautaire aujourd'hui. La descente de police du 15 juillet 1990 au Sex Garage, il s'en souvient, car elle signe d'une certaine façon son engagement militant. En 1993, pour souligner le 3e anniversaire de l'événement, il crée, avec Suzanne Girard et Suzanne Downs, divers cités, ancêtre de Fierté Montréal, qui pendant plus d'une quinzaine d'années organisera la Marche des Fiertés à Montréal. Étais-tu présent au moment de la descente policière? Non, je n'étais pas présent cette nuit-là, mais je fréquentais le Sex Garage et donc je connaissais beaucoup de monde. C'était un bar très mixte. Il y avait des bars pour les lesbiennes, des bars pour les gays. Le Sex Garage ne faisait pas de distinction. C'est vers 7 heures du matin que le téléphone a sonné chez moi pour m'avertir de la descente de police. À l'époque, il n'y avait ni cellulaire ni réseaux sociaux, mais l'information a circulé très vite par le téléphone, ce qui a permis que, le soir même du 15 juillet, plusieurs centaines de personnes bloquent la rue Sainte-Catherine au coin de la rue Amherst, à Tatéquen aujourd'hui, pour protester contre la brutalité policière et les arrestations des personnes qui étaient au Sex Garage. Cette mobilisation s'est faite de façon informelle et spontanée. Chacun, chacune appelait une amie pour le ou la prévenir. Cela ne provenait pas d'un groupe ou d'une organisation précise. Étais-tu un activiste à l'époque? Pas du tout. J'étais ouvertement gay, je suivais ce qui se passait dans le mouvement, entre autres pour tout ce qui touchait au sida, mais je n'étais pas à proprement parler un activiste. Je suis allé à la manifestation du 15 juillet et là j'ai vu des personnes prendre la parole, des personnes qui prenaient en quelque sorte le rôle de porte-parole, dont Douglas Buckley Couvrette, qui demandait à rencontrer les autorités policières. tout comme je suis allé le lendemain au sit-in Kessin devant le poste de police 25. Le chef de police devait rencontrer des représentants, représentantes, des manifestants, manifestantes, mais il ne s'est jamais présenté. Le plus impressionnant pour moi, c'était de voir le déploiement des forces policières autour de la manifestation, ou encore d'apercevoir des policiers avec des mitraillettes sur le toit du poste de police. Et puis aussi la brutalité de l'intervention des policiers contre nous. C'était inimaginable de vivre quelque chose comme cela. Et l'on vient te chercher pour organiser un événement au Parc La Fontaine après la manifestation du 30 juillet 1990? Le 30 juillet, une grande manifestation est organisée devant l'Hôtel de Ville de Montréal, qui doit se terminer par un grand rassemblement au Parc La Fontaine. Et David Shannon, qui a une émission de radio à l'Université McGill, The Homo Show, me contacte pour savoir si je pouvais faire venir des artistes. Et ce soir-là, on voit sur scène La 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 Human Steps avec Edward Locke et Louise Le Cavalier. Plusieurs artistes se sont montrés solidaires à l'époque. J'avais déjà organisé de petits événements, mais pas de cette envergure-là. C'est à la suite du Sex Garage que vous décidez de créer Diversité avec Suzanne Gérard et Suzanne Downs? À l'époque, j'étais plutôt un party boy. J'ai assisté à des rencontres de la table de concertation des gays et des lesbiennes du Grand Montréal. Je crois que j'ai aussi assisté à des rencontres qui ont mené à la création de « Dire enfin la violence ». Mais le Sex Garage a changé ma vie d'une certaine façon. J'ai compris l'importance de l'engagement. En 1993, pour souligner le 3e anniversaire de la descente de Sex Garage, Suzanne Downs, Suzanne Gérard et moi, on a décidé de créer une marche sur Saint-Denis, suivie d'une grande fête au Parc La Fontaine. Diversité a duré jusqu'en 2010, avant que Fierté Montréal ne prenne la relève. Info. Pour en connaître plus sur le Sex Garage et les manifestations qui ont suivi, visitez l'exposition des Archives gays du Québec qui se tiendra du 15 juillet au 14 septembre 2025 dans le local des Archives gays du Québec, rue Atatecan. C'était Poêle d'air, témoin et acteur des manifestations entourant la descente au Sex Garage. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue.